Et nous continuons à parler de Faulkner dans la compagnie des auteurs avec l'anthropologue Jean Jamin. On commence cette seconde partie en écoutant Jean Renoir faire un portrait de l'auteur d'Absalon Absalon.
Comme beaucoup de très grands écrivains, il ressemble à un petit fonctionnaire. Il est habillé modestement, sobrement, il s'exprime dans un langage extrêmement châtié, il est le contraire de l'artiste tel qu'on le décrit dans les livres de Murger. Oui, Faulkner est battant. Faulkner, n'est-ce pas, est un homme qui n'a pas besoin de s'habiller d'une façon quelconque pour s'imposer. Au bout de 10 minutes de conversation, on sait que non seulement on a affaire à un grand homme, mais qu'on a affaire, pardonnez-moi d'employer une expression banalisée, on a affaire à un gentilhomme.
Et on pourrait ajouter, Jean Jamin, qu'on a affaire à un homme qui manie l'ironie. Ah, c'est oui. Important l'ironie pour Faulkner. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas tellement perçu chez nous, de ce côté-là de l'Atlantique, l'ironie du bonhomme.
C'est-à-dire qu'on s'en est aperçu un peu tard, enfin, dans ces romans font la suite, disons, de Sanctuaire, de Absalon, enfin surtout. Surtout les Snopes, où il y a une ironie extrêmement mordante, enfin sur des petits blancs qui deviennent des blancs importants. Ça aussi, c'est important chez Faulkner, c'est l'aspect du petit blanc, de ce qu'on appelle les rednecks, et qu'on pourrait traduire par cutéreux. Je veux dire, il s'est intéressé beaucoup à ce monde-là, et notamment dans ce roman, là, vous parliez de divers points de vue, ce roman, Le Tandis que j'agonise, où vous avez une cohorte comme ça, un cortège de petits blancs d'une ferme un peu éloignée qui veulent absolument enterrer la mère qui vient de mourir au chef-lieu du comté, et dont Faulkner va raconter bon, ce qui est une épopée, enfin pour ainsi dire, c'est absolument épique la façon dont ils vont traverser ces 15 kilomètres avec des histoires.
Là encore, il y a la nature, hein, parce qu'il y a des tempêtes, il y a la rivière en crue, il y a l'effondrement d'un pont, les mules qui paniquent, etc.
Il y a l'incendie en plus de ça, et puis ça à mourir de rire, parce que le père n'a qu'une idée en arrivant et après avoir enterré sa femme, c'est de se faire refaire les dents. Donc il va s'acheter un râtelier, un dentier. C'est extraordinaire. Quoi.
Ouais. Et puis alors, il y a la femme qui sent le poisson. Il y a des enfants qui se rendent compte que sa mère sent le poisson.
Voilà. Et puis bon, l'enfant, le dernier né, il veut que sa mère respire dans le cercueil. Donc il prend une machine. Enfin, avec une mèche, il perce des trous. Puis il lui trouve le visage, quoi, forcément.
Voilà. Donc ça, c'est l'humour à la Faulkner, quoi.
Oui. Et alors là, c'est très très proche, enfin, de Mark Twain. De toute une tradition du roman humoristique américain, et avec les larrons, alors là ça c'est son dernier livre, mais c'est à mourir de rire, enfin c'est un livre fort drôle, enfin très très drôle, alors qui est dans le cinquième volume de la Pléiade, enfin bon celui-là a été publié dans le cinquième volume de la Pléiade. Oui.
Donc c'est un sacrilège là dont vous parlez, cette histoire de Tandis que j'agonise, et vous citez une phrase de Marcel Mauss qu'il aurait lancé à l'issue d'un de ses cours, et quand il l'a dit, le rituel est un sacrilège qui réussit.
C'est extraordinaire ça comme phrase. Alors allez la comprendre, hein, parce que Marcel Mauss lançait comme ça des phrases, mais quand on y réfléchit, c'est une chose absolument extraordinaire, à savoir que il avait mis le doigt. Bon, Faulkner avait mis le doigt sur une chose, évidemment, il n'a jamais suivi les cours de Mauss. Enfin bon, c'était pas son propos, ni même lu un seul instant un livre de Mauss. Sauf que il avait lu Bergson, quand même, ça, il le dit, et il s'était beaucoup intéressé à Bergson, et puis surtout Fraser. Fraser, qui était un des grands anthropologues de la fin du 19e siècle britannique, et le Rameau d'Or, notamment, et ça, il s'en était beaucoup inspiré aussi. Il faut pas croire que Faulkner était ce qu'il disait, où il disait bon volontiers, dire ouais, bah moi je suis le vétéran d'une 6e année d'école primaire. Enfin bon, quand même.
Pierre Bergoglio soutient qu'il n'était pas si cultivé que cela.
Moi je pense qu'il l'était par rapport à sa bibliothèque qui était quand même. Il lisait Shakespeare, il avait Shakespeare constamment, bon comme souvent d'ailleurs les Anglo-Saxons, dans sa poche. Mais on peut bon, peu importe, en tout cas, c'était quelqu'un qui travaillait énormément et qui avait l'art et la manière d'écrire.
Et donc ce sacrilège, ce rituel qui est un sacrilège qui réussit.
Alors ça c'est une idée que Faulkner découvre au fond, et en même temps Robert Hertz avait découvert ça, qui était un camarade de Mauss, c'est que le sacré se divise en deux. Si vous avez un sacré droit, qui est le sacré, alors là on peut dire officiel, et vous avez un sacré gauche, qui est celui évidemment auquel s'intéressait Mauss, auquel s'intéressait Robert Hertz, auquel s'est intéressé Georges Bataille, bien entendu, qui était un sacré, où on fiche tout en l'air, quoi, quelque part, si vous voulez. Bon, c'est un sacré pourri, d'une certaine manière, et qui est aussi important que l'autre.
Mais ça reste le sacré.
Ça reste le sacré. Bah là, on est dans le sacré, hein. Je veux dire, quand vous allez enterrer une dame comme ça qui vient de mourir, faire 15 kilomètres, enfin bon, en affrontant tous les éléments naturels, on est quand même dans quelque chose de sacré. Le rituel est quelque chose qui fait partie du sacré, bien sûr.
Alors, on parle d'une famille, hein, là, oui. Tandis que j'agonise, les relations familiales, évidemment, c'est un des thèmes de Faulkner.
Bah, c'est le sang. Là.
Et c'est le troisième thème, c'est le troisième mot,
Le sang.
De votre titre.
Bah oui, parce que, bon, vous savez, c'était très simple, j'ai pensé à ça en pensant au droit du sol, au droit du sang, quoi. Bon, vous savez, bon, la fameuse histoire dans laquelle nous sommes toujours, d'ailleurs. Bon, on va pas faire ici de la propagande électorale. Hein.
Surtout pas.
Surtout pas.
En ces périodes préélectorales,
non,
on n'a pas le droit
on
de
pas
citer
droit.
Ne serait-ce qu'un nom.
Donc, je ne cite personne. Mais en tout cas, pour le sang, évidemment, le problème, si vous voulez, de Faulkner, de ces familles qu'il a bien mis en évidence, c'est que ces familles veulent se reproduire à l'identique. Blancs, nous sommes blancs et on restera blancs. Au point que, c'est là que Faulkner est absolument génial, où il démontre que ces gens-là préfèrent l'inceste plutôt que le métissage. Et ça, il le fait dire dans Absalon, je préfère, mon fils, que tu épouses ta sœur plutôt que ta sœur épouse un noir. C'est extraordinaire.
Et pourtant, il y a des incestes interraciaux aussi chez Faulkner.
Ben, c'est surtout dans Des Sans Moïse que ça se manifeste, si vous voulez. Mais alors, il y a deux choses que Faulkner a parfaitement mises en évidence, et c'est pour ça que nous, anthropologues, on était fascinés par lui. C'est l'inceste du premier type, celui que je viens de vous décrire. Un père et sa fille, un frère et une sœur, et surtout l'inceste du deuxième type qu'avait mis en évidence François Héritier, et que lui avait eu l'intuition de cela, c'est-à-dire que vous êtes dans une relation incestueuse si vous partagez sexuellement deux personnes qui sont en relation de consanguinité alors que vous n'avez aucune relation de consanguinité avec elles. Donc vous êtes considéré comme étant, si je puis dire, dans une relation incestueuse. Et les deux personnes sont elles-mêmes considérées comme dans une relation incestueuse. Et ça, Faulkner l'a parfaitement démontré avec dans Les Invaincus. Ça, c'est merveilleux.
Des auteurs sur France Culture. Ça pourrait ressembler à ça, la musique de Faulkner. Vous parlez de la musique de Faulkner, Jean-Jamin,
oui. Dans
votre essai. Ça, c'est Jamie O'Brown. Le titre s'appelle The Valley. Et c'est un sample d'Alan Lomax.
Oui, non, ça, absolument. Lomax est très dur avec Faulkner, beaucoup plus dur d'ailleurs qu'il ne devrait l'être. Mais je crois qu'il a été aussi victime, là aussi, de certains stéréotypes. Il a vu le Faulkner un peu raciste, disons, et un peu beaucoup même. Enfin, je crois qu'il l'était profondément.
Les avis sont partagés cette semaine. C'est votre avis?
Moi, je pense qu'il l'était. Il ne l'était pas d'une façon militante, si vous voulez, agressive, mais il l'était profondément, au fond de lui-même, il l'était.
C'était un descendant d'une famille.
Voilà, c'est ça. Il était victime, disons, des préjugés de classe et des préjugés de race et des préjugés de caste qu'il avait quand même. C'était quand même quelqu'un qui se prétendait faire partie de la très bonne société, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, d'Oxford. Mais il voulait, si vous voulez, il voulait apparaître, comme dit Jean Renoir, comme un gentilhomme, ça, c'est incontestablement. D'ailleurs, il monte à cheval, enfin bon, il veut apparaître effectivement comme le gentilhomme qu'il n'est profondément pas, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un sacré dipsomane aussi, hein, Faulkner, je veux dire. Donc, bon, il en est mort même, enfin, bon, d'une certaine manière, c'était quand même 2 bouteilles de Jack Daniels par jour. Hein.
Ouais. Avoir fait plus une balade en cheval, quand même,
oui,
nécessaire.
Oui, quand même, enfin bon, il est tombé de cheval mort, parce qu'il voilà. En avait bu peut-être une de trop. Mais il a fait une œuvre absolument extraordinaire, quand on voit 7 volumes dans la Pléiade, c'est hallucinant. De sorte que, bon, si vous voulez, je ne sais plus qu'à dire.
Sur la musique.
Ah, sur la musique, oui. Bah, écoutez, Faulkner, oui, Lomax n'est pas très gentil avec lui, et Faulkner a été assez sensible, au fond, à la musique du blues, incontestablement. Il en parle d'une façon effectivement pas très, très développée, mais suffisamment quand même, par répétition dans son œuvre, pour se dire que ça l'intéressait beaucoup. Dans Sanctuaire, il y a des tas de passages, enfin, qui font allusion au blues, enfin, ou à la musique de la Nouvelle-Orléans. Ouais. Il a été à la Nouvelle-Orléans, faut pas oublier qu'il a vécu à la Nouvelle-Orléans et qu'il a fréquenté, évidemment, les boîtes de jazz de la Nouvelle-Orléans de l'époque. Et il y a toujours, chez les Noirs, il y a toujours cette idée, effectivement, du blues, de la plainte. Et il y a des descriptions magnifiques de Faulkner, d'ailleurs, je crois que c'est dans Sartoris, où il y a une description magnifique d'un mendiant, c'est un aveugle qui joue de la guitare, et Faulkner décrit en l'espace d'un paragraphe, enfin, tout ce qu'il faut décrire sur le blues.
Dans Lumière d'août aussi, des jeunes Noirs qui chantent le blues.
Et là, il sait très bien faire ça, Faulkner. Donc, il était très attentif et je crois qu'il avait de l'oreille, pas aussi. Il avait de la vue et de l'oreille, incontestablement.
Et ça correspond aussi à une façon de composer, peut-être, les romans, l'improvisation au jazz.
Absolument.
Et puis voilà, le bricolage.
Le bricolage, oui.
Des différentes voix, différentes énonciations. Ça peut ressembler aussi aux différentes voix divers instruments du jazz.
Ou de Negro Spirituals. Ce qu'il faut voir, c'est que la technique romanesque, enfin la technique du romancier Faulkner, d'ailleurs vous le disiez très bien au début, il a voulu être poète, il n'a pas réussi à l'être. Bon, et comme il disait, il faisait une hiérarchie, si vous voulez, entre la poésie, la nouvelle et le roman. Bon, celui qui ne sait pas être poète, il fait des nouvelles. Celui qui ne sait pas faire des nouvelles, il fait un roman.
Et c'est vraiment raté, la poésie de Faulkner ?
Bon, c'est pas terrible. Enfin, je sais pas si on vous en a parlé. Enfin, c'est pas ce qui me fascine le plus. Je trouve qu'il est beaucoup plus poète dans sa prose qu'il ne l'est dans ses vers, disons.
Bon. Donc finalement, il est arrivé à son...
Il est arrivé, absolument. Il y a des romans qui sont des véritables poèmes, il y a des nouvelles qui sont des véritables poèmes. Je pense notamment à ce qui a été publié là récemment par Pitavi dans le volume de la Pléiade sur ses nouvelles qui s'appelle Septembre Ardent, qui est une merveilleuse nouvelle, quoi. Et c'est de la poésie noire, mais c'est de la poésie, incontestablement. Donc, il y a ça aussi, si vous voulez. Il y a la technique du romancier qui, comme vous le dites, est effectivement inspirée aussi par le blues, par les rythmes. Enfin, il y a une rythmique de la phrase de Faulkner qui est très particulière. Il y a aussi le cinéma. Faut pas oublier ça. C'est un des premiers, je crois que c'est un des premiers romanciers à utiliser la technique de montage du cinéma.
Il a travaillé
d'ailleurs dans les mines de sel, comme il disait, à Hollywood. Il a compris ce que c'était que le cinéma et c'est un des premiers à utiliser ces techniques de montage dans la manière même de mener un récit.
Et ça, on le voit où, dans quel livre en particulier? Partout, dans Le Bruit et la Fureur.
Le Bruit et la Fureur surtout. Et puis, dans Tandis que j'agonise aussi. Alors, Absalon, non, c'est plus un récit linéaire, enfin, relativement classique, disons. Mais, il y a, Oui, c'est surtout le bruit et la fureur. Dans Sanctuaire, il y a des éléments comme ça, si vous voulez, de montage, enfin, cinématographique. Et puis surtout, avec ses cadrages qu'il a, sa manière de prendre le décor, et puis ensuite de faire un gros plan, enfin, comme l'histoire que vous avez citée là, tout à l'heure, enfin, le début de Sanctuaire, où on a un cadrage, et puis soudain, le plan se resserre sur le personnage de Popeye.
Du coup, on se demande pourquoi il n'a pas persévéré à Hollywood. Alors évidemment, c'est parce que c'est une très grosse machine et que son rôle était vraisemblablement très limité. Mais en effet, il y a quelque chose du cinéma expérimental dans le montage de fragments. Je pense qu'on pourrait parler de fragments.
On peut parler de fragments, oui. Et d'ailleurs, beaucoup de ses romans, comme je pensais au Palmier Sauvage, tiens, voilà, un qui fait penser au montage, puisque c'est deux histoires alternes qui se renvoient l'une à l'autre, d'une façon un peu artificielle parfois. Mais si vous voulez, il a quand même été un grand scénariste. Il a fait, vous me direz, personne n'y a jamais rien compris, mais ça c'est du Faulkner, Le Grand Sommeil. Bon, c'est lui qui a fait le scénario tout de même de Howard Hawks. Et puis il en a fait l'autre, comme si...
Il est respecté, selon vous, le scénario original?
Ah, je crois, oui, je crois. Mais c'est pour ça qu'on n'y comprend rien, d'ailleurs. Je veux dire, c'est l'obscurité la plus totale, hein, Le Grand Sommeil. Mais c'est du Faulkner, quoi. Et je crois qu'Howard Hawks l'avait effectivement respecté. Surtout, il en a eu marre d'Hollywood, parce qu'il travaillait comme un forcené. Enfin, il appelait ça ses mines de sel. Mais c'est surtout que, pourtant, ils n'avaient pas tellement de préjugés, hein. Howard Hawks, John Ford et puis Raoul Walsh, mais ils buvaient trop. Donc, ils s'en sont débarrassés au fur et à mesure. Voilà.
Bon alors, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui avec vous, Jean Jamin. On a parlé du sol, du sang, et on se demande, en conclusion finalement, si le portrait que vous faites de Faulkner, c'est le portrait d'un humaniste ou pas. Est-ce que pour vous, à la fin, vous prendriez ce mot d'humaniste pour le qualifier?
Absolument. Je crois que c'est un grand humaniste, mais pas en tant qu'homme, je dis en tant qu'écrivain. C'est un grand humaniste, incontestablement. Ça, je le pense, oui.
Un humaniste pessimiste.
Pessimiste, oui. Mais comme tous les grands humanistes le sont, je ne vois pas d'humaniste optimiste. Enfin bon, si vous en avez, dites-moi et donnez-moi quelques exemples. Là, je serais ravi de pouvoir aller les lire tout de suite, d'ailleurs, en rentrant chez moi.
Je n'en connais pas. Il y en a sûrement, les auditeurs vont nous envoyer des mails.
Oui, probablement qu'ils vont nous en envoyer, mais moi, j'en connais pas, en tout cas. Et même Victor Hugo, qui est un grand humaniste, n'est pas un humaniste optimiste, du tout.
Donc un humaniste.
Et c'est la raison pour laquelle je rapprocherais quand même Faulkner de Victor Hugo à cause de ça, si vous voulez, de cet humanisme et de cette façon dont il a fantastiquement, il aime ses personnages. Enfin, je veux dire, même si il est décrit comme des vrais salauds, mais il les aime, ses personnages. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui est de l'humanité, là, qui sent sourd de ces personnages.
Voilà une magnifique ouverture. Merci beaucoup, Jean Jamin. Et pour ceux qui voudraient creuser encore votre vision d'anthropologue sur le travail de Faulkner, je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage Faulkner, le nom, le sol, le sang, aux éditions du CNRS. C'est paru en 2011.